OK, on va commencer notre 70e leçon sur notre série sur la théologie systématique. Ce matin, nous allons voir la doctrine de l'Évangile. Alors, c'est clair que l'Évangile a été prêché sous les deux administrations de l'Alliance de grâce. À la fois dans l'Ancien Testament, il a été prêché à Adam, à Abraham, à Noé et à tous les autres patriarches, et ensuite prêché par tous les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, il a été prêché de manière plus claire et plus complète. Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Première chose qu'on va regarder dans la leçon ce matin, c'est l'Évangile, son nom et sa signification. Alors son nom, ça vient du mot grec « euengelion », qui signifie « bonne nouvelle ». Ce sont les bonnes nouvelles du ciel et les bonnes nouvelles de Dieu. Maintenant, sa signification, c'est le message annoncé aux hommes pécheurs sur la terre. Luc 4, versets 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, c'est le message annoncé aux pécheurs sur la terre, et c'est aussi le message concernant l'incarnation de Christ. Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Luc 2, versets 10 et 11. « Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Donc, c'est le message concernant aussi le mystère de la piété. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, dans la version Osterval. « Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » Voyez-vous, 1 Timothée 3, 16, ça dit d'une façon très claire, « Dieu a été manifesté en chair. » Alors, c'est vraiment Christ, là, c'est sans aucune équivoque possible. Maintenant, on va regarder, on a vu le nom et la signification, on va regarder la terminologie. Les différents sens qui sont utilisés pour le mot « évangile » dans l'ensemble des Saintes Écritures. Alors, parfois, le mot « évangile » peut être utilisé pour l'histoire de Christ comme telle. Donc, l'histoire de sa naissance, de sa vie, de ses actions. Nous parlons, par exemple, souvent de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean, l'évangile... Alors, on utilise le mot « évangile » pour parler de l'ensemble de la vie et des actions de Jésus-Christ. Dans un sens plus large, on utilise le mot « évangile » et parfois, ça inclut la parole de Dieu et les ordonnances. Par exemple, dans Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Marc 16, versets 15 et 16, alors, dans le grec, dans le chapitre, Marc 16, versets 15 et 16, quand ça dit « prêcher la bonne nouvelle », dans le grec, c'est « euengelion ». Alors, il aurait pu traduire « prêcher l'Évangile ». Puis, il leur dit « allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, c'est important de voir que si on dans le grec, le mot « euengelion » est utilisé, donc c'est vraiment « prêcher l'Évangile ». Alors ça, c'est dans le sens large. Dans un sens plus strict aussi, c'est la doctrine de la paix avec Dieu, du pardon des péchés, de la justice et du salut des âmes des pécheurs par la personne et l'œuvre de Christ. Et les Écritures utilisent des vocables qui sont différents. Par exemple, on va utiliser l'Évangile du salut dans Éphésiens 1, verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Voyez-vous, ici, le terme qui est utilisé, c'est l'Évangile du salut ou de votre salut. Un autre vocable qui est utilisé pour parler encore de l'Évangile, c'est l'Évangile de la grâce de Dieu. Dans Actes 20, verset 24, dans la version David Martin, « Mais je ne fais cas de rien et ma vie ne m'est point précieuse pourvu qu'avec joie j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. » Alors, ça, des mots, des vocables ou des expressions qui sont utilisées pour parler de la même chose. Aussi, les Écritures utilisent l'expression, le vocable « l'Évangile de paix ». Éphésiens 6, versets 14 et 15. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Et toutes des expressions un peu différentes les unes des autres, puis dans le fond, on parle tous de la même chose. Et il y a aussi l'Évangile du royaume de Dieu, qui est utilisé dans Matthieu 4, verset 23, dans la version Sterval. « Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'Évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. » Deuxième point qu'on va regarder, c'est l'Évangile, son auteur et son origine. Alors, comme c'est l'habitude de Gill de faire, il fait toujours la même chose dans presque toutes les doctrines qu'il présente. Il dit négativement ce que c'est pas puis ce que c'est après. Alors, ce que c'est pas, il dit négativement, l'Évangile ne vient pas de l'homme. Alors, son origine, ça vient pas de l'homme d'aucune façon. Galates 1, versets 11 et 12. « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Matthieu 16, versets 16 et 17. « Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alors, Matthieu est très clair. Le Seigneur dit à Pierre lui-même qu'il a eu un éclair de génie en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ça vient pas de toi, ça vient d'une révélation de Dieu le Père. Matthieu 13, verset 11, Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, et que cela ne leur a pas été donné. » Alors, on parle à la différence entre les disciples et ceux qui ne sont pas des disciples. Alors, le Seigneur, il leur dit, « À vous, vous êtes mes disciples, ça vous a été donné, mais à eux autres, ça ne leur a pas été donné. » 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Voyez-vous, encore une fois, La Bible nous dit que l'homme irrégénéré ne peut pas comprendre les choses concernant la Bible, concernant le salut, concernant Jésus-Christ, à moins que l'Esprit ne le régénère avant. Parce que ça le dit, l'homme animal, c'est l'homme irrégénéré, ne peut pas recevoir les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Alors, c'est assez clair. Maintenant, il a commencé par en nous disant que ça ne vient pas de l'homme, l'origine de l'Évangile ne vient pas de l'homme, mais si on regarde le côté positif, bien, l'Évangile vient du ciel. 1 Pierre, chapitre 1, verset 12, « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant, ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Voyez-vous, prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit. Alors, positivement, ça vient du ciel. Jacques 1, verset 16 à 18, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Voyez-vous, encore là, un verset très clair, « Il nous a engendrés par sa volonté, la volonté de Dieu. » Alors, ça vient du ciel et ça vient aussi du Dieu trinitaire. On peut, il y aurait beaucoup de versets dans les Saintes Écritures pour nous le démontrer. J'en ai choisi uniquement trois. Un pour présenter que ça vient de Dieu le Père, un pour présenter que ça vient de Dieu le Fils, et un pour présenter que ça vient de Dieu le Saint-Esprit. Commençons par Dieu le Père. Romains 1, versets 1 à 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair. Maintenant, regardons aussi Dieu le Fils, Romains 1, versets 9 et versets 16 et 17. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'Évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit, 1 Pierre 1, verset 12, « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Et il y aurait une multitude d'autres versets qu'on pourrait aller chercher concernant la part du Père dans le salut, la part du Fils et la part du Saint-Esprit. Mais dans le fond, c'est de voir que, dans le fond, ça vient à la fois du ciel et des trois personnes de la Trinité. Un salut trinitaire. Troisième point qu'on va regarder, l'Évangile, ses effets. Alors, le premier effet, c'est celui de la régénération. 1 Pierre 1, verset 23. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. » Jacques 1, verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Bon, je me souviens d'une expression qu'on avait utilisée quand j'étais à l'école biblique. On nous disait, le salut, c'est la parole de Dieu, c'est comme un instrument. Tu prends un instrument, puis s'il n'y a personne qui souffle dedans. Alors, la parole de Dieu, c'est comme l'instrument, mais l'esprit, c'est celui qui souffle dedans. Alors, si l'esprit ne souffle pas sur la parole, la personne peut l'entendre avec ses oreilles physiques, mais ne l'entend pas avec ses oreilles spirituelles. Alors, quand on parle de la régénération, c'est vraiment l'esprit de Dieu qui souffle sur sa propre parole, qui est l'instrument par lequel la régénération arrive. Deuxième point, la vie spirituelle. Donc, l'effet. Premier effet, c'est la régénération. Le deuxième effet, c'est le fait que la personne maintenant régénérée a une vie qui est maintenant spirituelle. 2 Corinthiens 2, versets 15 et 16. « Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? » 2 Corinthiens 3, verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, à partir du moment que la personne est régénérée, elle a maintenant une vie spirituelle. Autre effet, c'est celui de la lumière. Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alors, je pense que le verset est assez clair. Il nous dit que si aujourd'hui, on peut dire des choses intelligentes sur la création, sur le salut, sur quelque sujet que ce soit, c'est à cause qu'on a la parole de Dieu pour nous éclairer, pour nous faire dire des choses intelligentes. Quand il dit aux simples, dans les Écritures, les simples, c'est souvent une personne C'est pas le mot simple tel qu'on l'utilise aujourd'hui. On va dire de quelqu'un, il est très simple. Le mot simple, c'est plutôt dans un sens péjoratif. Dans un sens, en voulant dire que c'est pas des personnes qui sont nécessairement très intelligentes. Elles donnent de l'intelligence au simple, en voulant dire des personnes qui ne sont pas très intelligentes de nature peuvent dire des choses extrêmement intelligentes à cause qu'ils ont la lumière de la parole de Dieu. La lumière, la foi en Christ, autre effet, c'est la foi en Christ, Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Autre effet, la justice de Christ, dans Romains 1, verset 17, dans la version Sterval, « Car en lui, en parlant de Christ, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, elle est révélée du début à la fin et par degrés croissants de clarté. Autre effet de l'Évangile, c'est qu'elle amène de la nourriture spirituelle. L'Évangile donne du lait pour les bébés spirituels et de la viande pour les adultes spirituels. Et ce fameux Évangile apporte aussi plaisir et joie. C'est sûr qu'un jeune chrétien, on lui exposera pas nécessairement des doctrines un petit peu plus, qui sont plus dues pour ce que la Bible appelle les adultes spirituels. Alors, une personne qui commence, il faut commencer par les doctrines de base et non pas l'embarquer dans les trous. C'est comme si on ne donnera pas un morceau de steak à un bébé. Hein, c'est comme on le sait, ça. Alors, c'est la même chose pour nous. Dans la même chose du point de vue spirituel. 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Voyez-vous, on parle de la parole et on dit que ça nourrit. Alors, c'est pas juste une expression. Là. Des fois, on dit c'est une nourriture. C'est véritablement une nourriture pour l'âme. Hébreux 5, versets 13 et 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, la parole utilise le mot le lait, c'est pour les enfants. Alors, c'est sûr que quand on nourrit un enfant, on ne lui donne pas du steak, on le sait très bien, on ne lui donne pas des choses qu'il n'est pas capable de digérer encore. Ça va venir, mais ça, c'est plus tard. Jérémie 15, verset 16. Alors ici, dans Jérémie 15, verset 16, c'est vraiment une expression qui est choisie, qui veut véritablement aller dans le sens de manger la parole. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. » Plusieurs choses qui sont dites dans ce petit verset-là. Les recueillir, les dévorer, ça veut dire que tu as vraiment un appétit pour en prendre de plus en plus. Et ça dit aussi, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alors souvent dans la parole de Dieu, on trouve des choses qui nous amènent de la joie. Et le mot allégresse, c'est intéressant aussi parce que l'allégresse, c'est un degré de joie qui dépasse la joie ordinaire. C'est comme, quand on est dans l'allégresse, là, c'est qu'on file pour... On file pour danser puis quasiment crier notre joie à tout le monde tellement on est content. Alors, ça nous dit que la parole de Dieu peut nous amener à ça. Alors, c'est quand la dernière fois qu'on a eu de l'allégresse en lisant la parole? Autre chose, autre effet que ça nous amène, c'est la paix, la joie et le réconfort. Acte 8, verset 8. « Et il y eut une grande joie dans cette ville. » Souvent, quand on regarde les conversions, surtout au début, on voit souvent des expressions de joie très grandes chez ceux qui sont nouvellement sauvés. Alors, ici, on a dans Acte 8, c'est véritablement des nouveaux sauvés, et ça dit que quand ils ont vraiment compris l'Évangile, il y eut une grande joie dans cette ville. Pas juste une joie, une grande joie. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il peut y avoir de la paix dans nos âmes si ce n'est par l'appréciation de l'Évangile de Christ? Psaume 149, verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Voyez-vous, ça parle d'un autre. Souvent, dans les psaumes, on voit le roi David qui a des moments d'allégresse. La nuit, il pouvait se réveiller la nuit et avoir comme des... pousser des cris de joie sur ta couche, ça veut dire que tu es couché, tu dors la nuit. Alors qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, ça veut dire que ça peut arriver que des fois, en pleine nuit, on peut se réveiller, puis l'Éternel peut permettre qu'on ait comme un flash sur les choses de l'Évangile et que ça nous donnerait l'envie de crier de joie. C'est spécial. Quatrième point qu'on va regarder, l'Évangile, c'est propriété. On a regardé ses effets, maintenant on va regarder ses propriétés. La première, c'est l'unicité, donc le fait que l'Évangile, c'est quelque chose d'unique. L'Évangile est absolument unique et est indivisible organiquement. Tous ces éléments sont interreliés. Quand on se met à comprendre l'Évangile en termes des cinq points du calvinisme, on voit que tous les points sont interreliés. Et dès qu'il y en a un qui est mal compris ou qui ne va pas assez profondément, c'est sûr que ça a l'influence sur ta manière de le comprendre, ta manière de le transmettre aux autres, ta manière de le proclamer. C'est un tout organique. Ça se tient. Et dès que tu fais une erreur quelque part, ça se répercute ailleurs. Si tu ne comprends pas la dépravité, la corruption et l'inhabilité du cœur humain, ça va se répercuter sur tes autres façons, ça va se répercuter sur tout. Alors, les cinq points, ça se tient. L'Évangile, des fois, on dit les cinq points, on les appelle les doctrines de la grâce, mais dans le fond, on dit les doctrines de la grâce, mais c'est comme une façon, on devrait dire la doctrine de la grâce. Et la doctrine de la grâce comprend les cinq aspects. Et quand quelqu'un n'a pas compris un ou l'autre des aspects, c'est sûr que ça se répercute sur les autres. Ça, c'est sûr, vous avez juste à examiner quelqu'un qui est arménien, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. L'unicité. Alors, Galates 1, versets 6 et 7, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. » Galates 2, verset 7. « Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. » Alors, l'unicité de l'Évangile, c'est unique. On ne trouve pas l'équivalent de l'Évangile dans les autres religions du monde. Et même, je dirais, même dans le christianisme mal compris, c'est pas l'Évangile complet tel que décrit les Écritures. Deuxième propriété de l'Évangile, c'est qu'il est glorieux. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Mais on en parle avec le mot « gloire », la gloire de Christ, la splendeur de l'Évangile, la gloire de Christ est révélée à l'intérieur de ça. Et si on comprenait jusqu'à quel point c'est profond, on serait renversé. Glorieux et autre propriété, c'est qu'il est éternel. 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ça nous dit que la parole de Dieu va demeurer éternellement. Apocalypse, chapitre 14, verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Maintenant, on a regardé les différentes choses concernant l'Évangile ce matin. Quelles sont les différentes applications qu'on peut tirer du texte qu'on a vu aujourd'hui, les différents aspects de l'Évangile qu'on a regardé aujourd'hui? Je dirais la première, c'est que nous sommes récipiendaires et dépositaires de cette bonne nouvelle. Glorifions Dieu et répandons-la. Les Écritures nous disent qu'un des rôles de l'Église locale, c'est de conserver l'Évangile et de la proclamer. Alors, c'est notre responsabilité à la fois de la garder pure et aussi de la transmettre, de la proclamer à ceux qui ne la connaissent pas. Première application. Deuxième application, l'Évangile est une œuvre divine. Ne l'oublions pas dans nos méthodes d'évangélisation. Alors, c'est sûr que quand on annonce l'Évangile, faut que les gens comprennent que c'est une grâce qui vient de Dieu, ce n'est pas à cause de notre habilité à prêcher ou quoi que ce soit, notre habilité à expliquer. On peut expliquer ça avec la plus grande intelligence, puis la personne n'allume pas. Si elle n'allume pas, c'est tout simplement parce que Dieu a décidé que ça n'allumait pas. Alors, c'est bien important de... parce que notre façon de comprendre l'Évangile va se refléter dans notre manière de proclamer l'Évangile. Si on la comprend mal, on va la proclamer mal aussi. Troisième application, bénissons l'Éternel et remercions-le pour les glorieux effets de l'Évangile. Souvent, on peut oublier ces effets-là, mais si on s'arrêterait à y penser, justement, ça nous amènerait à bénir l'Éternel et à lui rendre grâce. Et la quatrième application, rendons-lui gloire, car l'Évangile est une œuvre unique, glorieuse et éternelle. Louons le Seigneur. Amen. Amen.